Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, la République tchèque a adopté de nouvelles mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Elle ferme complètement ses frontières aux étrangers à partir de ce lundi. Le nombre de personnes contaminées était de 120 en Tchéquie vendredi après-midi. Légende du sport tchèque, Dana Zátopková est décédée ce vendredi matin à Prague à l'âge de 97 ans. Le gouvernement a renforcé ce vendredi les mesures visant à empêcher les sorties et les entrées du territoire tchèque en raison de la propagation de l'épidémie de coronavirus. À compter de lundi, il sera interdit de voyager à l'étranger. Seules les personnes travaillant dans les pays voisins et les routiers seront autorisés à franchir les frontières. Toutes les autres personnes, y compris les étrangers possédant un permis de séjour longue durée, seront contraintes de rester en République tchèque, tandis qu'aucune personne en provenance d'un pays étranger, quel qu'il soit, ne sera autorisée à entrer sur le territoire tchèque. Malgré ces interdictions de voyager décrétées par le gouvernement, les étudiants étrangers qui séjournent en République tchèque dans le cadre du programme Erasmus seront autorisés à sortir du territoire tchèque. De leur côté, les étudiants tchèques séjournant à l'étranger seront contactés par les ambassades. Nous sommes prêts à les rapatrier, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères, Tomáš Petříček. Quelques 150 étudiants tchèques se trouvaient ainsi par exemple en Italie au début du mois de mars. Par ailleurs, le gouvernement a décidé que jusqu'à nouvel ordre, en attendant l'évolution de la situation sanitaire, plus aucun échange d'étudiants ne serait organisé. À compter de ce samedi, tous les déplacements en bus et en train dans les pays voisins de la République tchèque seront interdits. Les transports aériens sont eux aussi restreints. Seuls les voyages en automobile sont possibles. Vendredi après-midi, le nombre de personnes contaminées par le virus COVID-19 était de 120 en République tchèque. Plusieurs dizaines de nouveaux cas ont été recensés depuis jeudi. À présent, chacune des 14 régions du pays est affectée par le virus. Toutefois, seuls quelques patients se trouvent dans un état grave. Selon le ministère de la Santé, ils ont été placés en soins intensifs. Le ministre de la Culture, Lubomír Zaorálek, rencontre les représentants des travailleurs indépendants du monde du théâtre ce vendredi en raison de la fermeture des salles décidée en réaction à l'épidémie de coronavirus. Il demande au gouvernement d'envisager un mode de compensation pour les dommages causés par l'annulation des spectacles en mars et avril. Les théâtres concernés ne sont pas de la gestion de l'État, des villes ou des régions. Selon eux, leur fermeture pourrait entraîner leur disparition. C'est une bien triste nouvelle pour le sport tchèque. Dana Zátopková est décédée ce vendredi matin à l'hôpital militaire de Prague. Sacrée aux Jeux d'Helsinki en 1952, l'ancienne championne olympique du lancer du javelot était âgée de 97 ans. Avec son mari Emil Zátopek, le légendaire coureur de fond, quadruple champion olympique à Londres et à Helsinki, décédé en 2000, Dana Zátopková a formé un des beaux couples de l'histoire du sport. Un film consacré à un chapitre de l'histoire du couple sous le régime communiste sortira dans les salles tchèques en août prochain après les Jeux olympiques de Tokyo. Côté météo, c'est un temps toujours plus dégagé au fil de la journée et déjà quasiment printanier qui va régner sur l'ensemble du territoire ce samedi, jour de la fête des Ruth et Matilda. Les températures varieront entre 5 et 9 degrés. C'était les informations de Radio Prague International par Magdalena Hrozinková. La suite de l'émission avec Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, merci à Magdalena Hrozinková pour ce tour d'horizon de l'actualité évidemment dominée par le coronavirus dans le monde et en Tchéquie également. À Prague, il reste encore quelques touristes, mais l'évolution de la situation avec l'état d'urgence laisse présager de lourdes conséquences pour l'économie du tourisme. Jules Bocan et Tiffen Peel sont allés à la rencontre de commerçants et de touristes dans le centre-ville. Reportage. Jeudi, à l'heure où le gouvernement tchèque a décrété l'état d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus sur son sol, La ville de Prague restait encore parsemée de touristes, mais l'évolution de la situation, vous l'avez entendu dans le bulletin d'information, laissait présager de lourdes conséquences pour l'économie et en particulier pour l'économie du tourisme. Donc, reportage dans le centre-ville de Prague avec Jules Bocan et Tiffen Pil.
Le pont Charles est étrangement clairsemé. Et même s'il y a bien quelques touristes qui flânent, ce sont surtout les artistes en tout genre, habituellement présents sur le pont, que l'on peut observer. C'est l'un d'eux, un photographe, qui s'exprime sur la situation.
Il y a quand même encore des gens, des touristes sur le pont. Je suis un peu surpris, je vois bien sûr qu'il y a moins de touristes et je suis sûr que cela va empirer. Ce n'est pas bon pour le business en général, les restaurants, les hôtels, partout en Europe, voire dans le monde. Business around the hotels, as
everywhere in Europe, maybe all world. Corollaire d'une moindre présence touristique, l'activité de ce secteur commence peu à peu à se gripper. Une activité dont fait partie un des membres de Boat Trip, chargé d'attirer les visiteurs de Prague pour une croisière sur la Vltava. Tout en relativisant sur la situation, il s'inquiète des répercussions sur son travail.
Ouais, ça n'est pas général, c'est dans tout le continent européen et tout le monde entier, on peut dire. Ouais, ça joue un impact d'économie et sur les affaires, le tourisme, la restauration, et ça joue un impact sur ça. Puisque c'est une épidémie, on peut dire, globale, on peut dire, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Je suis resté positif, je suis sur un truc de passage, et c'est prêt à Dieu, et ça va passer comme c'est venu. Restons positifs juste, c'est tout.
Le long de la Vltava, on dénombre plus de pigeons ou de cygnes que de badauds. Une baisse de fréquentation des lieux les plus touristiques de Prague, qui a néanmoins des avantages pour les quelques touristes encore présents. Aurélie, française de passage à Prague avec ses amis, témoigne sur cette situation particulière et l'ambiance dans la ville qu'elle peut ressentir depuis 3 jours.
On s'est dit plusieurs fois en visitant 2-3 lieux touristiques qui avaient moins de monde. On était étonnés de pouvoir balader sur le pont Charles avec si peu de gens. C'est ce matin, juste ce matin, qu'il faisait beau, du coup il y avait plein de monde. Même en visitant la tour ce matin, on était genre 3 au-dessus, quoi. C'était cool, mais ouais, donc je pense qu'il y a sûrement une conséquence du coronavirus sur le nombre de personnes, les touristes à Prague. Plusieurs fois on s'est dit ouais, trop cool, il y a personne, mais après hein, c'est pas une bonne raison.
Les mesures restrictives annoncées jeudi et vendredi par le gouvernement tchèque ne vont pas améliorer la situation, avec notamment l'interdiction d'entrée sur le territoire tchèque des touristes venant des pays considérés comme étant des zones à risque, dont la France et la Belgique. Les informations sur la situation en Tchéquie sont mises à jour sur le compte Twitter de Radio Prague International, @radioprague.fr.
Et juste un mot pour nous excuser pour la mauvaise qualité de certains sons. Et oui, le vent soufflait beaucoup autour du pont Charles dans cette journée de jeudi. Suite du programme dans une poignée de secondes sur Radio Prague International. On passe maintenant à de l'architecture avec un anniversaire. Celui d'une grande personnalité de l'architecture tchèque de la première moitié du XXe siècle, Josef Gočár. Il est né il y a tout juste 140 ans, en 1880. On lui doit notamment la construction de la maison à la Vierge Noire, où se trouve le célèbre café cubiste de Prague, ou encore celle de remarquables bâtiments fonctionnalistes dans le centre de Prague et les villes de Pardubice ou de Lázně-Bohdaneč. Coup de projecteur dans cette émission sur un autre chef-d'œuvre de Josef Gočár, le bâtiment de la Legiobanka. Il est situé dans la rue Napožičí, à proximité de la place de la République et de la gare Masaryk dans le centre de Prague. Ce monument, Legiobanka, est l'exemple parfait d'un nouveau style architectural créé à l'époque de la première République tchécoslovaque. Le rondocubisme, c'est le nom de ce style, une variante typiquement slave du cubisme, caractérisé par l'usage des formes massives et rondes, ainsi que par l'emploi du rouge et blanc. Magdalena Hrozinková.
Comme son nom l'indique, la Legiobanka est étroitement liée à la création du premier État indépendant des Tchèques et des Slovaques. Elle a été fondée en 1919 en Russie en tant qu'institution financière des régions tchécoslovaques qui ont grandement contribué à la naissance du nouveau pays. Le bâtiment pragois, quant à lui, a été construit au début des années 1920 par Josef Gočár. En sa personne, la Tchécoslovaquie a trouvé un artiste compétent qui a créé une sorte de style national. C'est c'est ce qu'on appelle le décorativisme national ou le rondocubisme, et le bâtiment de la Legio Banca est la plus grande icône de cette période courte mais intense de l'architecture tchèque dans la première moitié des années 20. L'architecte Vladimír Šlapeta raconte.
Hlavně se věnoval tomu hlavnímu průčelí.
Pour ce projet, Josef Gočar a fait appel à deux des meilleurs sculpteurs tchèques de l'époque, Jan Štursa et Otto Gutfreund. Ils ont créé des sculptures en relief qui décorent la façade du bâtiment. Elles représentent les champs de bataille les plus importants, là où ont combattu les légionnaires tchécoslovaques tels que Vuzier ou Zborov. La frise est l'œuvre d'Otto Gutfreund, qui s'est lui-même engagé dans les activités des légions françaises. Il montre le retour des légionnaires du combat et leur contribution au travail de paix dans le nouvel État.
Nous l'avons dit, le bâtiment de la Legio Banca est devenu un véritable symbole du nouveau style appelé le rondocubisme ou le cubisme arrondi. Il s'agit d'une variante tchèque du cubisme caractérisée par l'utilisation des formes massives et rondes ainsi que par l'emploi du rouge et du blanc. Accessible au public, le bâtiment pragois de la Legio Banca abrite aujourd'hui la banque commerciale tchécoslovaque ČSOB. Dans le hall, richement décoré avec un plafond vert, l'architecte Vladimír Šlapeta explique.
Josef Gočar usiloval vždycky o Gesamtkunstwerk.
L'objectif de Josef Gočar était de créer des œuvres d'art totales, c'est-à-dire des œuvres qui devaient incorporer architecture, sculpture, art décoratif ainsi que peinture, et pour laquelle il a fait appel à ses collègues les plus talentueux. Ainsi, Gočar a soigneusement conçu tous les objets pour le bâtiment de la Legio Banca, y compris des cendriers. Certains meubles, des fauteuils par exemple, ont été conservés jusqu'à nos jours.
Proto ta monumentalita například zde v Legio Bance. A ta obnova průčelí ta zůstala i do doby.
L'aspect monumental des bâtiments rondocubistes ainsi que leurs ornements traduisent l'esprit de l'époque de l'entre-deux-guerres qui mettait en valeur les symboles du nouvel État. La différence par rapport au cubisme consiste en l'utilisation de formes arrondies, des arches notamment. Les architectes parlent parfois du burštíkový style, c'est-à-dire des formes qui rappellent les burští, ces saucisses tchèques. Cela s'explique peut-être par le fait que l'une des grandes figures du courant rondocubiste, Pavel Janák, s'est engagé en Hongrie pendant la Première Guerre mondiale. Là-bas, il a certainement vu toutes sortes de saucisses. Il se peut qu'il se soit inspiré de leurs formes pour ses projets.
Par ailleurs, un bâtiment rondocubiste réalisé par Pavel Janák se trouve, tout comme le bâtiment de la Legio Banca, au centre de Prague. Il s'agit du palais Adria, situé place Jungmann.
Suite du programme en français de Radio Prague International avec la deuxième partie de l'entretien réalisé par Anna Kubišta avec Jérôme Filiatre, journaliste à Libération et auteur d'un ouvrage consacré au milliardaire tchèque Daniel Křetínský, un livre paru aux éditions du Seuil jeudi. Dans Mister K, petites et grandes affaires, Jérôme Le Filiatre s'est intéressé au parcours de l'homme d'affaires, à la façon dont il a constitué sa fortune de manière fulgurante depuis le début des années 2000, une fortune construite sur des investissements dans l'énergie, notamment dans les énergies fossiles comme le charbon ou le gaz. Son entrée surprise au capital du groupe Le Monde en 2018 en France a fait l'effet d'un coup de tonnerre, le quotidien du soir étant considéré comme un fleuron de la presse hexagonale. Depuis, pour faire taire les critiques et les interrogations, Daniel Křetínský a multiplié les plaidoyers en faveur d'une presse de qualité, prônant le besoin de défendre une certaine forme de journaliste pour lutter contre les populismes et la désinformation. Est-ce qu'on peut croire à la sincérité du milliardaire tchèque ? Tentative de réponse avec l'auteur du livre, Jérôme Le Filiatre.
Je crois que c'est un homme d'affaires, d'abord et avant tout. Et les hommes d'affaires, les milliardaires de son genre, réfléchissent d'abord en fonction de leur intérêt économique. Ceci dit, ça n'exclut pas qu'il y ait une part de sincérité aussi dans son discours pro-démocratie, pro-journalisme, pro-presse, anti-populiste. Les gens sont complexes, les hommes sont complexes, et Daniel Křetínský est un être complexe. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts financiers évidents, c'est un homme d'affaires, un businessman qui a envie de construire un groupe gigantesque, il le dit, il l'assume. Et puis de l'autre côté, c'est aussi assez est assez frappant chez lui quand on passe un peu de temps à discuter, c'est aussi un intellectuel, d'une certaine façon, qui a une vision périphérique du monde qui nous entoure. Il s'intéresse à la politique, il s'intéresse à la culture, à l'art, à la philosophie, et à la littérature, et il a une vision aussi du monde. Donc, il voit très bien ce qui se passe autour de lui, notamment en Europe de l'Est, en Europe centrale, où la tentation populiste est forte, hein, dans les pays comme la Slovaquie, la République tchèque aussi, mais la Pologne, la Hongrie, etc. Et donc, il a construit un discours qui me semble assez sincère, vu son histoire, vu ses origines familiales, vu qu'il est un adolescent aussi de la Révolution de velours. Mais ce discours, aussi sincère soit-il, parfois entre en contradiction avec les faits. Ses ambitions économiques, d'une part, et puis aussi certaines pratiques qu'il a dans la presse. Il y a eu un scandale qui a été très suivi à Prague autour de son site qui s'appelle info.cz, autour d'une campagne d'influence pro-chinoise à travers ce site notamment, qui a été financé par Petr Kellner, qui est son associé en affaires,
et son beau-père,
son rival et son ami. Il y a une part de sincérité dans ce qu'il dit, mais il faut relativiser cette sincérité parce que ça reste un homme d'affaires redoutable, intraitable et très ambitieux.
Justement, puisque vous en parlez, il a aussi quand même des liens avec certains milieux politiques tchèques. On sait qu'il a financé notamment la candidature à la présidence de l'ancien Premier ministre de la droite conservatrice, hein, de l'ODS, Mirek Topolánek. Est-ce que c'est révélateur de ses convictions politiques ?
Oui, moi, pour moi, je crois. Je crois que c'est révélateur de ses convictions politiques. Quand on finance un candidat à la présidentielle, ce n'est pas neutre. Ça dit quelque chose de conviction politique. Et il dit beaucoup de bien de Mirek Topolánek, même s'il a quelques réserves sur le style Topolánek, qui est un peu particulier. J'ai aussi découvert ce personnage à cette occasion, à l'occasion de ce travail.
Très haut en couleur, mais, en effet.
Très haut en couleur, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et qui s'est fait une carrière, d'ailleurs, dans une entreprise de Kretinsky, d'ailleurs.
Qui travaille pour Kretinsky, effectivement, qui a une position importante, hein, dans l'empire de Daniel Kretinsky, puisqu'il est au conseil d'administration de la société Eustream, donc le gazoduc qui passe en Slovaquie. Il a aussi une émission sur le site info.cz, le Topol Show. Donc ça va au-delà de l'amitié ou de la complicité intellectuelle. Voilà, on a vraiment Kretinsky a donné à Topolánek des moyens d'exister, médiatiques, politiques, puisqu'il a financé sa campagne lors de la dernière élection présidentielle. C'est, encore une fois, j'insiste, c'est pas neutre. Et puis aussi, il lui donne des moyens financiers en l'employant. Donc il y a une vraie complicité, c'est l'homme politique dont Kretinsky est le plus proche. Et même s'il est peut-être, parce qu'ils ne sont pas tout à fait de la même génération, peut-être un peu moins conservateur sur certaines questions, et encore, ça demande à être prouvé, oui, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue ici. On sait que voilà, Kretinsky est quelqu'un qui vient qui est plutôt lié à la droite conservatrice. Depuis sa jeunesse, à l'âge de 20 ans, il fréquentait déjà plutôt ces cercles-là. Lui-même dit qu'il il se sent un peu plus à droite qu'Emmanuel Macron. Donc, plus à droite qu'Emmanuel Macron, ça veut dire que vous êtes libéral économiquement, comme Macron, mais que vous êtes plus conservateur qu'Emmanuel Macron sur la question des mœurs. Donc à cet égard, pour moi, il n'y a pas de doute sur le positionnement politique de Daniel Kretinsky.
Puisqu'on parle justement des personnes de son entourage, comment est-ce qu'il a choisi, Daniel Kretinsky, ses collaborateurs en France?
C'est une bonne question. Alors il y a deux principaux collaborateurs français, deux principaux conseillers. Il y a d'un côté Étienne Berthier, qui est l'homme de l'ombre, qu'on ne voit pas beaucoup, qui est une figure des affaires françaises, mais une figure discrète en France. C'est-à-dire qu'il est là depuis une trentaine d'années dans le paysage, plus ou moins visible, parce qu'il a eu des périodes un peu de traversée du désert. Berthier, lui, c'est une sorte de mini banquier d'affaires, conseiller à tout faire, qui connaît Kretinsky depuis 10 ans. Qui allait le voir lui-même, qui allait le démarcher pour lui proposer ses conseils. Et il s'est passé quelque chose entre les deux hommes, qui se sont entendus, qui se sont reconnus dans le dans leur connaissance du marché de l'énergie et qui sont assez complémentaires. Berthier, c'est quelqu'un c'est un homme de l'ombre qui sait distribuer la parole de façon plus ou moins officieuse, un homme de réseau qui parle aux journalistes, qui parle à l'administration publique, au personnel des grandes entreprises en France, etc., qui avait un réseau que n'avait pas Daniel Kretinsky, notamment en France. Ils sont reconnus là-dessus, ils travaillent ensemble en Europe. Et puis l'autre conseiller français s'appelle Denis Oliven. Alors lui, par contre, c'est la lumière, il est très connu parce qu'il est dans le paysage économique français depuis, pareil, une trentaine d'années, très glamour, puisqu'il il est en couple avec un ancien mannequin qui est très connu en France, s'appelle Inès de la Fressange, qui a collectionné les postes dans les grandes entreprises privées françaises, très connues comme la Fnac, l'Observateur, Lagardère, etc., qui était aussi un ancien un haut fonctionnaire au départ, qui a travaillé dans les cabinets ministériels. Donc c'est tout le mélange français entre le public et le privé très classique. Et lui, il l'a recruté parce qu'il connaissait bien le monde des médias. Il venait du groupe Lagardère, de la partie média du groupe Lagardère, qu'a racheté Kretinsky. Et c'est un homme de réseau très proche du pouvoir, de tous les pouvoirs aujourd'hui encore d'Emmanuel Macron. Là aussi, Berthier et Oliven, c'est deux hommes très complémentaires qui permettent d'avoir accès à tout ce qui compte en France, tous ceux qui comptent en France.
Daniel Kretinsky, c'est la deuxième génération, on peut dire, hein, de milliardaires en République tchèque, hein, post-1989. En quoi diffère-t-il justement de cette première génération? Vous l'avez un petit peu aussi esquissé en disant que lui, c'est plutôt un intellectuel aussi, qu'il est cultivé, etc. Est-ce qu'on pourrait un peu distinguer ces deux générations de milliardaires ou d'oligarques en République tchèque?
Alors, ce que j'appelle oligarque de première génération, reprenant d'ailleurs des choses qui sont assez courantes en République tchèque, notamment dans la presse, c'est des gens comme Petr Kellner ou Andrej Babiš, qui ont fait fortune dans les années 90, lors de la vague de dénationalisation consécutive à la chute de l'URSS. C'est-à-dire des gens qui ont mis la main sur des entreprises qui étaient parfois des monopoles, et donc des entreprises potentiellement très rentables, parce qu'elles avaient des positions sur le marché importantes. Dans le nouveau capitalisme des années 90, forcément, on pouvait faire des fortunes très rapides en mettant la main sur ces sociétés. Daniel Kretinsky, c'est un oligarque pour moi de la seconde génération, de la deuxième génération, parce que il n'a pas fait fortune lors des années 90, lors de ces années qu'on dit souvent avoir été sauvage. Daniel Kretinsky, il apparaît en fait au cours des années 2000, commence à prendre son essor autour de 2003-2004, à un moment où quand même l'économie tchèque, l'économie slovaque aussi, ont été un petit peu rationalisées. Il y a la justice, le droit est revenu un petit peu là-dedans, remettre un peu d'ordre. Donc lui, il arrive à un moment où il faut faire preuve de qualité d'homme d'affaires pour pouvoir faire fortune. Ce qui est le cas, hein. D'ailleurs, tout le monde dit que c'est quelqu'un de très brillant, très intelligent, qui sent bien les investissements à faire, qui sait aussi qu'il a une grande intelligence sociale, qui sait mettre les gens d'accord autour d'une table, qui sait négocier, qui a un art de la négociation qui est déterminant dans sa façon de faire. Et voilà. Mais en revanche, ça ne veut pas dire non plus que Daniel Kretinsky n'a rien retenu de ses aînés. Il est associé en affaires avec deux hommes importants, donc qui sont Petr Kellner et Patrick Tkach, qui ont fait fortune dans les années 90 lors des années de privatisation sauvage. Et on voit quand même qu'il a gardé ces deux hommes dans son entourage, et puis on voit très bien qu'il a retenu une leçon de leur parcours, c'est qu'on ne fait pas fortune en Europe centrale sans l'appui d'alliés puissants.
Donc politiques.
Des hommes d'affaires. On le voit très bien dans le cas de Daniel Kretinsky, il y a deux hommes essentiels dans sa montée en puissance et dans la façon dont il a fait fortune. C'est d'un côté Mirek Topolánek qui le suit depuis quelques années, et puis de l'autre il y a aussi Martin Roman, l'ancien président de Chez, qui a été déterminant dans le parcours, dans l'éclosion de Daniel Kretinsky. C'est grâce à des deals, des affaires spectaculaires en collaboration avec Chez que EPH et Daniel Kretinsky sont devenus aussi puissants. notamment au rachat des mines allemandes Mibrag et d'autres choses. Sans Martin Roman, sans l'appui, l'aide de Martin Roman, jamais Daniel Kretinsky ne serait devenu aussi riche, ne serait devenu un tel multimilliardaire à l'âge seulement de 40 ans.
Ma dernière question, est-ce que vous pensez, avec ce livre très fouillé, avoir répondu aux inquiétudes des journalistes français qui s'interrogent évidemment sur de potentielles interférences voilà, de Daniel Kretinsky dans le contenu de leurs médias?
J'espère que le livre apporte des éléments qui permettront à chacun, chaque lecteur, qu'il soit journaliste ou pas, de se poser la question est-ce que Daniel Kretinsky est un bon actionnaire pour un journal comme Le Monde, comme Marianne, comme Elle, comme d'autres. J'espère que chaque lecteur pourra se faire une idée là-dessus. Est-ce que quelqu'un qui est ouvertement climato-sceptique est aujourd'hui un bon actionnaire pour un journal comme Le Monde? Est-ce que quelqu'un qui a fait fortune à l'ombre de puissants alliés politiques et économiques est un bon actionnaire pour un journal comme Marianne? Est-ce que quelqu'un qui a fait preuve de légèreté dans sa gestion du site info.cz et sa lente dérive vers une ligne éditoriale tapageuse, droitière et remplie de fausses informations, est un bon actionnaire pour un journal comme Elle ou d'autres en République tchèque que je ne cite pas? Je laisse vraiment le soin à chaque lecteur de se faire une idée, une opinion là-dessus, sur la base des éléments que j'apporte. Au-delà du cas individuel, du cas personnel de Daniel Kretinsky, moi, je me demande de toute façon si le fait pour un média d'information d'avoir un milliardaire ayant des intérêts industriels très forts dans un pays, ou même dans toute l'Europe, comme c'est le cas de Daniel Kretinsky, est une bonne chose. Je pense qu'il faut dépasser le simple cas de Daniel Kretinsky et se poser la question plus généralement, parce que des milliardaires qui rachètent la presse, il y en a partout, dans tous les pays, dans toute l'Europe, pas seulement en France, mais aussi en République tchèque, vous le savez bien. Et ça dépasse franchement son simple cas.
Pour écouter cet entretien réalisé par Anna Kubishta avec Jérôme Le Filiatre, il suffit de nous retrouver sur nos pages internet www.radio.cz/fr. Toutes les archives de Radio Prague International sont en ligne. Et puis, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, si vous voulez les actualités mises à jour concernant notamment, malheureusement, la propagation du coronavirus en Tchéquie. Un seul compte Twitter à suivre, celui de Radio Prague, Radio Prague FR. Et puis, nous sommes également présents sur Facebook. En attendant, je vous souhaite une très agréable journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez gentils. À bientôt. Ahoy.